L'actu de la semaine avec notre partenaire Corée International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Laetitia.
On parle beaucoup de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais un conflit du même type couve entre deux autres puissances économiques, à savoir la Corée du Sud et le Japon.
Absolument Laetitia. Depuis plusieurs semaines, rien ne va plus entre Séoul et Tokyo. Ces tensions, elles sont provoquées par la décision prise par le gouvernement nippon début juillet de restreindre les exportations de composants chimiques vers son voisin, des composants utilisés principalement pour la fabrication de téléphones portables. Réaction immédiate des Coréens, la population s'est mise à boycotter les produits japonais. C'est ce qu'illustre d'ailleurs un reportage de la Nikkei Asian Review dans une boutique de la marque Uniqlo.
편안함도 스타일도 단 한 장으로 유니클로 프라타.
Habituellement grouillant de monde le week-end, ouvrez les guillemets, celle-ci était complètement déserte un récent dimanche de juillet, conséquence du mouvement Boycottons le Japon qui s'est propagé à travers la Corée du Sud, fermez les guillemets. Depuis, c'est l'escalade. Le 2 août, le gouvernement japonais a rayé son voisin d'une liste d'États qui bénéficient d'un traitement de faveur, un prêté pour un rendu. Séoul en a fait de même ce lundi en annonçant son intention de retirer le Japon de sa liste de partenaires commerciaux de confiance.
Mais expliquez-nous, Sacha Mitchell, qu'est-ce qui est à l'origine de cette défiance entre les deux pays?
Eh bien, tout est parti d'une décision de la Cour suprême sud-coréenne en octobre 2018. La haute juridiction a accordé à 4 ouvriers ayant travaillé pour une aciérie japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale 75 000 euros au titre de réparation. À cette époque, on le rappelle, la Corée était sous occupation japonaise. Problème, Tokyo estime que les litiges renvoyant à cette période sont clos en vertu d'un accord de 1965. Mais en réalité, les raisons profondes dépasseraient ce différend lié à l'histoire. C'est le spécialiste des questions diplomatiques au journal japonais Nihon Keizai Shimbun qui le dit. D'abord, l'importance du Japon pour l'économie sud-coréenne a chuté. En 2018, Tokyo ne représentait que 5% des exportations de la Corée du Sud, tandis que la Chine en absorbait plus de 25%. Ensuite, vis-à-vis de la Corée du Nord, Tokyo et Séoul ne partagent pas la même approche. Si le premier ministre japonais Abe a toujours eu tendance à exercer une pression sur Pyongyang, le président sud-coréen Moon préfère se réconcilier avec le leader Kim Jong-un.
Et forcément, cette question diplomatique inquiète également les États-Unis.
Absolument, Laetitia. Les deux pays sont des alliés essentiels de Washington dans la région. Et ces dissensions, elles arrivent à un moment un peu délicat. Comme le rappelle le Financial Times à Londres, la Corée du Nord a repris ses essais nucléaires, tandis que dans le même temps, la Chine et la Russie tentent d'accroître leur influence militaire dans la région. Pour citer une nouvelle fois le Nihon Keizai Shimbun, si les deux voisins ne se rabibochent pas, ce sont la Corée du Nord et la Chine qui pourraient sortir gagnantes du conflit.
On quitte l'Asie pour rallier à présent l'Atlantique Sud, Sacha, où Courrier International nous emmène cette semaine en voyage sur les îles Malouines.
3200 résidents permanents, plus de 700 morceaux de terre rattachés depuis le 19e siècle au Royaume-Uni. Les Malouines, qui sont posées au large de l'Argentine, c'est un territoire un peu oublié de tous. Et à commencer par Marcel Theroux. De son propre aveu, l'écrivain britannique ne connaissait pas grand-chose de l'archipel avant de s'y rendre pour le quotidien The Daily Telegraph. Mais surprise, à 12 000 km de Londres, il y a découvert, étrangement, des échos de la culture britannique. Le paysage a quelque chose de celtique, nous dit-il. Les accents font penser à ceux de l'ouest de l'Angleterre. On y trouve des élevages de moutons et on y mange des repas accompagnés de la fameuse HP sauce. Voici ce qu'il écrit.
Nous avions l'impression d'avoir atterri dans un autre monde où se mêlent allègrement les tartines de confiture, de camarines rouges et les poses autour d'une tasse de thé.
Mais ces reflets de Grande-Bretagne s'accompagnent surtout d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Le tapis d'herbe rare que décrit Theroux dans son article est sublimé par un ciel particulièrement vaste. Et ici, le soleil tape fort. Il ne pleut pas tout le temps comme on pourrait le penser et c'est d'ailleurs un des préjugés que les habitants s'empressent de corriger. Les habitants, justement, ils restent marqués par la guerre de 1982 entre l'Argentine et le Royaume-Uni à propos de la souveraineté des Falklands, comme on les appelle en anglais. Theroux raconte...
Chaque habitant de plus de 40 ans a une histoire improbable à raconter en lien avec la guerre, même s'il préfère ne pas en parler.
À noter que depuis le conflit, les îles sont devenues autosuffisantes grâce à la pêche aux calamars et de plus en plus grâce aux touristes, environ 60 000 par an. Mais attention Laetitia, si vous souhaitez vous aussi admirer les baleines et les caracara austro, l'une des espèces d'oiseaux les plus rares de la planète, sachez qu'il n'existe que 3 liaisons aériennes pour vous rendre aux Malouines. Depuis le Chili, depuis le Brésil, ou bien seule option européenne au départ d'une base militaire près d'Oxford pour la somme particulièrement élevé, il faut le dire, de 2400 euros aller-retour.
Ah oui, quand même. Merci Sacha Mitchell.
Merci Laetitia.
L'actu de la semaine avec notre partenaire Courrier International, c'est à réécouter sur le site franceinter.fr.